Bien, merci les musiciens et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Internet. Dieu vous bénisse. Ça va aujourd'hui?
Oui.
C'est beau, mais bon, un peu gris quand même. Mais on s'en fiche. On a, comme on disait avec Charef, on a le cœur qui... On a le soleil dans le cœur. Voilà, Charef et Lucia vous saluent bien tous. On a passé avec Michou une semaine formidable chez eux. Vraiment, ils nous ont gâtés. C'était waouh. Formidable, que Dieu les bénisse. Ils viendront à la fin d'année pour passer un nouvel an avec nous. C'est super. Et Lucia va apprendre le français en attendant. La pauvre. C'est vrai, c'est difficile quand on est au milieu de gens qui parlent dans une langue différente, on comprend rien. Nous, on a vu même les panneaux là-bas en Italie, ils sont pas en français. Hein. Ils savent pas écrire stop, ils écrivent stopo. Ah, moi, je m'arrêtais pas. Non, je plaisante. Bien, ce matin, nous allons faire une lecture de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 1. Comment vous cherchez, je prie. Seigneur, je te prie que tu bénisses ce que je vais dire ce matin. Et que cela ne soit pas un choc destructeur pour certains, mais que cela soit un choc à salut. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Apocalypse 13, 1. Puis je vis monter de la mer, c'est-à-dire du peuple, une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Tout ça, ce sont des symboles. Je ne veux pas parler de ça ce matin, mais j'en parlerai un jour. Mais j'en ai déjà parlé. Et sur ses 10 cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms blasphématoires. Voilà ce que je voulais commencer par dire. Ensuite, je vais vous lire dans Apocalypse 18, versets 1 à 8. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il avait un grand pouvoir et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et détestable. En effet, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution. Les rois de la terre, les présidents, se sont livrés avec elle à l'immoralité et les marchands de la terre se sont enrichis grâce à la démesure de son luxe. Puis j'entendis une autre voix venant du ciel disant, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés et de ne pas être victime de ses fléaux. En effet, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses crimes. Payez-la comme elle a payé, donnez le double salaire de ses actes. Dans la coupe où elle a versé le double, donnez-lui autant de tourments et de deuil qu'elle a fait là. Fière, elle s'est plongée dans le luxe parce qu'elle a dit dans son cœur, « Je siège en reine, je ne suis pas veuve, je ne verrai jamais le deuil. » À cause de cela, en un seul jour, les fléaux qui lui sont réservés s'abattront sur elle, la mort, le deuil, la famine. Elle sera réduite en cendres. En effet, il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugée. J'ai tellement enseigné ces choses-là, sur le net, en France, en Suisse, en Belgique, et en particulier en Afrique, à des multitudes, à des pasteurs, en séminaire. Je leur ai tellement enseigné de sortir des dénominations religieuses. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais on dirait que les chrétiens, ils aiment bien désobéir à la parole de Dieu. Franchement. Tous les vrais chrétiens savent de qui Jésus parle là. C'est une des deux bêtes, dont l'une est une bête politique, qui a une influence sur le monde entier, et l'autre, eh bien, c'est une bête religieuse vers laquelle les rois de la terre, tous les politiques, vont se prosterner, embrasser sa bague, etc. Et ils font la guerre aux saints. de façon beaucoup plus cachée maintenant, parce que, particulièrement en France, on leur a enlevé le pouvoir depuis les années 1900. Enfin bon, si on leur redonnait le pouvoir, les bûchers se rallumeraient certainement, je serais un des premiers à monter dessus. Elle est ivre du sang des saints. C'est-à-dire des vrais enfants de Dieu, pas des saints de l'Église, comme saint machin, saint truc, saint gudule. Mes propres ancêtres de Grenoble ont été massacrés par elle sous Louis XIV, et quelques gens ont réussi à fuir en Suisse. On a été recueillis dans le village de Saint-Saphorin, dont je suis d'origine, puisque en Suisse c'est comme ça, on a les villes où on est né, puis on a une ville d'origine. Et ma ville d'origine, c'est la ville qui nous a accueillis quand on a dû fuir la France à cause des persécutions religieuses. Jésus dit que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. On trouve ça dans le verset 18 de ce que je viens de vous lire là. Alors, qui est cet homme qui porte ce nombre? Eh bien, c'est celui qui se fait appeler, en latin, Vicarius Filii Dei, c'est-à-dire le vicaire du Fils de Dieu. Vicaire. Pourquoi est-ce que je dis que son nombre est 666? Parce que les chiffres romains ont une valeur numérique. Je vous l'ai mis en photo sur Révélation Bible. Le V, c'est 5, le I, c'est 1, le C, c'est 100. Ensuite, le A et le R, c'est rien du tout. Le I, de nouveau, c'est 1. Et le U s'écrit V en latin, et ça veut dire c'est 5. Si vous multipliez ces chiffres, ça fait 112. Filii, le F, ça veut rien dire, le I, c'est 1, le N, c'est 50, le 1. Le I, de nouveau, c'est 1, ça fait 52. Ensuite, Idei, le I, c'est 1, le D, c'est 500, et le E, c'est rien, et le 1, le I, c'est de nouveau 1, ça fait 502. Alors, 112 plus 52 plus 502, ça fait 666. Voilà. La Bible dit, celui qui a de l'intelligence, qu'il calcule le nombre de la bête. Le vicaire du Fils de Dieu, c'est un homme qui s'oppose secrètement au plan divin. On va lire 1 Jean 2, 18, 22. Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs Antichrists. C'est par là que nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. C'est-à-dire, c'était des gens qui disaient chrétiens. Mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin que soit bien clair, qu'il soit bien clair qu'ils ne sont pas des nôtres. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint, par Dieu, et vous avez toute connaissance. Si je vous écris, ce n'est pas parce que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Qui est menteur? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus-Christ est le Messie? On pourrait dire, mais il nie pas que Jésus-Christ est le Messie. Non. Et par contre, on prie sa mère, mais pas lui. Hein. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul intercesseur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et eux, ils ont dit, non, non, c'est la Vierge Marie, parce qu'elle est plus gentille. Elle nous comprend mieux, c'est une femme, vous comprenez, elle est plus intuitive, alors il faut la prier, elle, et puis elle prie son fils qui prie son père. Et tout. Enfin, voilà, ils ont inventé ça il n'y a pas tellement longtemps, hein. Ils ont inventé. Ils ont inventé tellement de choses. 1 Jean 4, 3, 6. Il est dit. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant il est déjà dans ce monde. Mes petits enfants, vous êtes de Dieu si vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. La Bible, ils n'écoutent pas, hein. Ils font ce qu'ils pensent. Ils rajoutent des lois, ils en enlèvent d'autres. Ils font ce qu'ils veulent. Nous nous efforçons, ne disons pas que nous sommes parfaits, mais nous nous efforçons de faire ce que la Bible dit. C'est la moindre des choses, c'est la parole de Dieu, c'est ce que Jésus nous enseigne, c'est de faire ce qu'il dit. On va lire 2 Jean, chapitre 2, chapitre 1, pardon, verset 1, 7. 2 Jean, oh, je me trompe. 2 Jean 1, 7. De la part de l'ancien à la dame qui a été choisie, c'est pas ça. Verset 7. Et en effet, de nombreux imposteurs sont venus dans le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie venu en homme. Voilà ce qui caractérise l'imposteur et l'antichrist. Il est aussi appelé le fils de la perdition. Il est l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui est Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12, vous lirez ça chez vous. Il faut déjà même culotter pour se faire appeler le vicaire du fils de Dieu. C'est ce que ça signifie, vicaire. Ça signifie remplaçant ou substitut. C'est ce que cet homme prétend être, le remplaçant ou le substitut. Les mots ont une valeur. Le substitut, c'est celui, d'après le dictionnaire, c'est celui qui tient la place d'un autre. D'après le dictionnaire, se substituer, c'est détrôner quelqu'un pour prendre sa place. Et sans vergogne, il s'est appelé le substitut, le vicaire. Regardez l'histoire des papes dans l'histoire. Si les papes sont les remplaçants de Jésus, eh ben Jésus n'a pas changé. Hein. Il faut croire que Jésus a vraiment bien changé, parce que bon, les crimes, les meurtres, les assassinats, les galères, les bûchers. Le vicaire du Fils de Dieu, c'est une abomination. Le mot même est une abomination. Et il nous est dit qu'elle porte des noms de blasphème.
Ah bon?
Son organisation religieuse, la fausse église, est appelée la Grande Babylone. Alors, il y a une kyrielle de versets qui parlent de ça. Est-ce que je vous les lis tous? Non, je vous donne les versets. Apocalypse 14, 8, vous notez. 16, 19, 17, 5, 8, 2, 18, 10, 18, 21 à 24. Elle est appelée la Grande Babylone. Pourquoi? Pourquoi la Grande Babylone? Parce que à Babel se cachait le roi Némrod, vous savez, Babel, la tour de Babel, Babylone. Et Némrod, ça se faisait appeler Saturne, c'est-à-dire le dieu des mystères. Truçant, non? Il suffit d'avoir un petit peu de connaissances linguistiques et puis on le sait, hein? Ou alors Google. Saturne et mystère sont tous les deux des mots chaldéens. Mystère signifie le système caché. Saturne signifie le dieu caché. Le dieu était caché, mais se révélait aux initiés, pas aux autres. Le mot Saturne en chaldéen se prononce Stur, S-T-U-R. Et dans la langue chaldéenne, il faut le savoir, elle a aussi, comme la langue romaine, c'est une langue dont les lettres ont une valeur numérique. S, ça vaut 60, T, c'est 400, et U, c'est V, la même chose, c'est 6. R, c'est 200, et ça nous donne aussi 666. Bizarre, hein? Bizarre. Or, ce qui est encore plus bizarre, c'est que la Rome primitive s'appelait Saturnia. Qui le sait? Qui le sait? Mais cherchez, vous trouverez. Jésus dit, hein, cherchez, vous trouverez. Saturnia, ça veut dire la cité de Saturne. Alors, vous lisez Ovide, il le dit. Vous lisez Pline, il le dit. Vous lisez Aurelius Victor, il le dit. Alors, si vous voulez pas lire tout Pline pour trouver où il le dit, vous cherchez Pline sur Google, et puis vous tapez Rome Saturnia, puis vous verrez, Ovide, pareil, vous verrez que c'est comme ça. Ça fait réfléchir, ça vous fait pas réfléchir, ça vous laisse indifférent. Bon. De plus, le livre de l'Apocalypse nous dit que cette église est assise sur sept montagnes. Sept montagnes. Apocalypse 17, 9. Vous lirez ça chez vous. Or, Rome est construite sur cette colline. Savez-vous ça? Maintenant, souvenez-vous que Jésus dit que ce sont ceux qui ont de l'intelligence qui peuvent calculer le nombre de la bête. L'Apocalypse nous dit aussi que c'est une grande prostituée et qu'elle est la mère des prostituées. Apocalypse 17, 1 à 6. Apocalypse 17, 1 à 6. Puis j'ai un ange qui tenait cette coupe, et il va me parler et me dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, c'est-à-dire sur les peuples, elle est assise sur les peuples. Les grandes eaux, c'est toujours les peuples, là. Savez-vous que c'est le seul État, l'État du Vatican est tout petit, mais il a des ministres dans tous les villages. Hein. Et c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité, et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Alors il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms de blasphème, et qui avait sept têtes et 10 cornes. Cette femme était habillée de pourpre, d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie de noms de mystères. Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. Et Jean écrit, l'apôtre Jean, « En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. » Et l'ange me dit, « Mais pourquoi est-ce que tu t'étonnes ?» Il s'étonne, vous savez pourquoi? Parce que il n'arrive pas à comprendre comment le christianisme a si mal tourné. Jean, quand il écrit ça, il voit que c'est le christianisme qui a mal tourné. Et c'est pourquoi il s'étonne. De qui est-elle la mère? Elle est la mère des prostituées, pas de ces femmes que vous voyez sur les trottoirs, non, c'est pas ça. Jésus dit, elles, ces femmes-là, elles vous devanceront dans le royaume de Dieu. Non. Elle est la mère de tous ceux qui sont sortis d'elle, qui sont sortis de cette femme, qui est la grande prostituée, ils sont sortis d'elle, en gardant son système pyramidal, c'est-à-dire un chef tout en haut, un grand gourou, et puis un bureau, ou alors un bureau central, et plusieurs de ses fausses doctrines. Par exemple, le baptême pour les enfants, la Trinité, toutes ces choses-là. Il y en a plein, hein, il y en a plein. Savez-vous que au mois d'août, on va fêter l'Assomption de la Vierge Marie. Ça a été officialisé en 1950. Ils ont mis jusqu'à 1950 pour croire ça, hein, pour inventer ça officiellement. Enfin, il y en a plein de trucs comme ça. Alors, ils disent qu'elle est montée au ciel, mais... Si vous allez à Jérusalem, vous pouvez visiter son tombeau. C'est bizarre. C'est un lieu d'idolâtrie. C'est quelque chose de phénoménal. Elles sont des prostituées qui, toutes ces églises qui sont sorties d'elles et qui ont le même système, elles ne sont pas fidèles à Jésus. Jésus est appelé l'époux divin de la vraie église. Eh ben, elles ne sont pas restées fidèles, se sont vendues pour du pognon, pour du pouvoir, elles se sont vendues à des doctrines de démons. Là, tout à l'heure, on va prendre le pain et le vin, eux, ils prennent juste l'hostie. Voyons, c'est encore un truc qu'ils ont inventé. Et les intrigues des prêtres et des pasteurs d'aujourd'hui, dans nos sociétés de plus en plus profanes, s'opposent aux vrais croyants. La voix des personnes qui s'opposent au rôle vital de la foi en Jésus-Christ dans les sphères publiques et politiques, cette voix-là devient de plus en plus forte. Les laïcites, les gouvernements, de nombreuses écoles, des universités contraignent les gens à adopter un certain comportement. Et on trouve ça tout à fait normal, alors que la Bible dit que beaucoup de ces choses sont des abominations. Ils promeuvent l'immoralité, l'athéisme, le relativisme social. Alors mes frères et sœurs, si on ne défend pas nos droits de disciples de Jésus, finiront par nous vaincre. Il y a une guerre dans les cieux, la Bible nous dit, qui est menée au sujet du libre arbitre. Nous disons, on a toujours notre libre arbitre. De moins en moins, les gens se croient libres, mais enfin, ils ne sont plus tellement. Ils regardent la bête qui a le pouvoir de bouger et de parler. Savez-vous ça? Écoutez, l'apôtre Jean l'expliquait à sa façon, avec les mots qu'il avait. Il ne pouvait pas prononcer les mots qu'on a aujourd'hui, mais il le disait avec les mots qu'il avait. Ils ont fait une image de la bête qui avait été blessée par l'épée. Elle a reçu le pouvoir d'animer l'image de la bête afin que l'image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoraient pas. Et maintenant, eh bien, voilà, on a... Enfin, je ne vous dis pas, mais voilà, la télé, Internet et compagnie. Alors évidemment, il y a toujours une part de bien dedans. Hein. C'est pas tout complètement mal, mais... Alors il nous faut une foi vibrante. Parce qu'elle protège, elle fortifie les familles, les collectivités, les nations. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ça devient de plus en plus fragile, de plus en plus dramatique. On va me dire, ça a toujours existé, oui. Jésus a dit, quand vous entendrez parler de ceci, cela, cela, sachez que c'est bientôt la fin. Et c'est seulement depuis ma génération qu'on entend parler de ces choses-là, grâce à la télé, grâce au téléphone, grâce à Internet, on en entend parler. S'il se passe quelque chose, on le sait immédiatement, tout de suite. Deux minutes après, on le sait. Non? Vous en entendrez parler. La foi en Jésus suscite l'obéissance à la loi de Dieu et l'inculte le respect de la vie. Le respect de la vie. Elle inculque le respect de la propriété d'autrui, elle enseigne l'amour, l'honnêteté, la moralité, les vertus nécessaires pour perpétuer une société juste, hein, société juste, libre, civile. Nous ne devons jamais nous excuser de notre foi. Vous devez en être fiers. Nos efforts missionnaires, nos alliances saintes, nos efforts pour édifier le royaume de Dieu, l'évangélisation que nous faisons partout. Et tout ça, c'est pour le bien, et c'est aussi pour notre bonheur. Tout ça, ça exige que nous défendions la foi de la liberté religieuse. Parce que si on se met à attaquer la liberté religieuse, par exemple des musulmans, ben pourquoi pas la nôtre aussi, pendant qu'on y est. On est libre de croire ce qu'on veut. Moi, j'ai reçu chez moi, vous savez, le plus drôle que j'ai reçu chez moi, à ma table, c'est le grand chef des adorateurs du nombril. Bon, écoutez, évidemment, ça nous a fait un peu sourire. Il y a ceux aussi qui rendent un culte, là, en ce moment, un peu partout dans le monde. Ils disent que la photo, quand on vous prend en photo, ça vous prend un peu de votre énergie. Donc ce qu'il faut faire, c'est vous rendre votre énergie. Alors ils passent leur temps, leur culte, à brûler des journaux. Hein? Par exemple, ceux qui sont pour Trump, ils brûlent les photos de Trump. Ceux qui sont pour Biden, ils brûlent les photos de Biden pour lui rendre son pouvoir. Non, mais il faut leur laisser la liberté religieuse, parce que si vous leur laissez pas la liberté religieuse, ben, bientôt, ce sera notre tour et nous ne laisserons plus vivre notre foi comme on veut. On ne peut pas perdre le libre arbitre sans perdre d'autres choses. Alors j'étais inspiré à vous dire ces choses aujourd'hui en particulier, pas pour vous embêter, mais parce que le jour où mon épouse et moi sommes arrivés à Vérone, le même jour, le vicaire du Fils de Dieu est arrivé également à Vérone. C'est quand même bizarre, hein? Alors j'ai compris que Dieu voulait que je vous dise ces choses. Voilà, on n'a pas été écouté, parce que ça, ce qu'il a radoté ne m'intéresse pas du tout. Par contre, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir qu'il y avait énormément de gens dans les rues, ils ne sont pas tous allés le voir. Rester libre, c'est servir Dieu comme la Bible dit, comme la Bible l'enseigne. N'adhérez pas à une religion. Le nom de toutes les religions sont des noms de blasphème portés par la mère des grandes, par la mère des prostituées. Voilà pourquoi nous n'avons pas de nom. Nous refusons d'avoir un nom. Vous avez compris pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Les branhamistes disaient, Branham, il disait, il faut quitter les dénominations, et lui-même, il a nommé son église le Branham Tabernacle. Alors, vous rendez compte, si on appelait notre communauté le Janton Tabernacle. C'est infernal. Le règne de la bête, le règne de la bêtise, le règne de bête et méchant. Faites attention, mes frères et sœurs, peut-être vous ne croyez pas, mais on arrive au bout. La Bible dit qu'en un seul jour, Babylone serait détruite. C'est facile aujourd'hui. On se dit, mais comment c'est possible que cette institution soit détruite en un seul jour? C'est très facile aujourd'hui. On a tout ce qu'il faut pour le faire. Pas nous, mais le monde. Voilà, ça va arriver. On va le voir. C'est pas pour la génération future, c'est pour notre génération, c'est notre génération qui verra ça. C'est ce que Jésus dit. Quand vous verrez ces choses, sachez que mon retour est proche, comme quand vous voyez le figuier qui commence à mettre des feuilles, sachez que, voilà, eh ben, c'est pour aujourd'hui. C'est pour maintenant, c'est pour tout de suite, ça peut être demain, ça peut être après-demain. Il faut que vous soyez prêts. Il faut que vous envoyiez à votre pasteur ou à votre curé une lettre de démission. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus aller à l'église, mais il ne faut pas que vous portiez le nom de cette église. C'est un nom de blasphème. Vous devez porter le nom de votre époux, Jésus. Jésus dit qu'à la fin, il se trouvera que l'église sera comparée, elle est comparée à 10 vierges, des vierges folles, des vierges sages. Eh bien, elles vont à la rencontre de leur époux. L'église va à la rencontre de son époux. Les folles, non. Elles se trouveront derrière la porte parce qu'elles n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir entrer. Vous avez qu'à lire l'histoire, vous connaissez peut-être. Mais Jésus-Christ est notre époux. On porte le nom de notre époux. Pas le nom de notre église. Ça, c'est de la gnognotte humaine. C'est de la gnognotte. Ça, c'est un mot suisse, hein. Gnognotte. Vous savez que vous pouvez pas. Ils refusent, hein. Si vous envoyez votre démission, ça va être refusé parce que ils ne veulent pas perdre des membres. Mais faites-le. Faites-le. Montrez, manifestez votre foi. Mais faites-le en expliquant pourquoi. Si vous ne savez pas l'expliquer, eh bien vous prenez une clé USB, vous enregistrez mon message aujourd'hui, puis vous le donnez à votre prêtre ou à votre pasteur. Ça va l'édifier. Il va peut-être aussi sortir s'il comprend. À ce moment-là, il faut de l'intelligence pour comprendre. La Bible dit, c'est ceux qui sont intelligents qui peuvent calculer le nombre de la bête. Je vous l'ai montré. Faites-en ce que vous voulez. Moi, je vous l'ai dit. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.